Monsieur le représentant du sénateur Vert, cher Jean-François, Monsieur le Président, Syndicat des avocats de France, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats et les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Monsieur le bâtonnier de Lyon, Madame le vice-bâtonnier de Lyon, mes chers confrères, et puis tout simplement mes chers amis. Monsieur Jean-Marie Mouguru, président du Conseil national des barreaux, aurait souhaité être présent pour ce 40e congrès du Conseil du Syndicat des avocats de France, mais il est retenu à l'heure actuelle dans un autre congrès à l'étranger, celui de l'Union internationale des avocats, dont il quitte la présidence à cette occasion. Vous connaissez son attachement pour la composante syndicale de la profession. Il l'a évoqué lors de sa candidature et il en a fait état depuis sa prise de fonction. Permettez-moi à cet instant de rappeler avec émotion le nom et pas seulement le souvenir de notre confrère Thierno Greenberg. Il vous manque, il nous manque. Thierno Greenberg était une très grande figure du barreau français, un homme de conviction, un homme engagé dans chacune de ses fonctions, faisant preuve de la plus grande exigence intellectuelle alliée à une grande humanité. Il a été un membre très actif du Conseil national des barreaux, au sein duquel il a défendu avec passion ses convictions politiques et sa vision de la profession. Vous savez ce qu'il a apporté au syndicat des avocats de France. Ceux qui ont travaillé à ses côtés savent ce qu'il a apporté à la profession tout entière. Ces quelques mots ne le résument pas, naturellement, mais le rappellent ici et maintenant. Le SAF a 40 ans, 40e congrès, 40 ans 2014 et 40e congrès. Un chiffre marquant est peut-être celui de l'heure du bilan. Et pourtant, la lecture du programme, de votre programme, révèle que vous n'êtes pas tourné vers le passé et que durant les deux jours à venir, vous vous inscrivez résolument vers l'avenir. Vous allez aborder des questions qui touchent à l'exercice professionnel, au quotidien de l'avocat, en y évoquant un problème crucial, celui de la solidarité. Quelle solidarité et comment mettre en œuvre cette solidarité? Et vous préoccuperez toujours et encore des droits et des libertés des citoyens, des concitoyens et des étrangers. Ce programme répond en tout point aux exigences de votre pacte fondateur de 1974, défense de l'indépendance des ordres et de leurs membres, promotion d'une justice plus démocratique et plus proche des citoyens. Alors, pour évoquer ces thèmes, vous avez choisi un titre, l'avocat figurant acteur ou producteur de droit. Alors, à Lyon, la métaphore cinématographique n'est pas surprenante, puisque le barreau de Lyon, depuis 5 ans, organise des rencontres droit, justice et cinéma pour effectivement faire ce parallèle entre la justice et nous savons combien nos concitoyens sont friands de justice au cinéma. Alors, difficile de résister à la tentation de la métaphore et j'allais dire, cher Président, cher Jean-Jacques, que le tournage n'a pas commencé et déjà quelques difficultés de casting. Vos vedettes, vos têtes d'affiche se sont défilées. Impossible de recourir à des effets spéciaux. Le président Bourdieu est à Macao et je crois que les effets spéciaux auraient coûté trop cher à votre syndicat et que la production s'y est proposée. Donc pour Madame le garde des Sceaux, une chaise vide et pour le président du Conseil national des barreaux, une doublure. Et... À titre personnel, je suis absolument ravie d'être cette doublure, d'abord pour pouvoir assister à vos travaux, mais aussi d'être aux côtés de mes amis. Je le dis parce que quand on siège au Conseil national des barreaux, certains oublient quelquefois, il n'y a plus syndicat ordinaire, il n'y a plus Paris-Provence, il n'y a que des amis. Et moi, la dernière mandature, j'ai rencontré des amis, Alain, bien d'autres, et cette nouvelle mandature m'a permis de continuer à fréquenter Marianne et de rencontrer Franck, de revoir Myriam, de voir Yves Tamé, et surtout une rencontre avec Catherine Blon, que j'apprécie chaque jour plus encore, mais ça je crois que ça n'est pas une découverte. J'ai oublié Bertrand Couder et Philippe Chaudon, bien évidemment, qui sont aussi nos camarades. Et je peux vous dire à cet instant que l'investissement que vous avez eu au Conseil national des barreaux est très important, et de cela je vous remercie. Plus sérieusement, figurant, les avocats refusent de l'être, leur rôle est essentiel dans la société et dans le fonctionnement du service public de la justice. Il n'y a pas de système juridictionnel légitime sans avocat. Mais pas n'importe quel avocat, pas un avocat alibi, un avocat mis dans la possibilité de remplir correctement son travail, sa fonction. Les avocats doivent donc disposer des moyens de faire respecter les droits de la défense et les droits et libertés de toute personne, quelle que soit son origine, mise en cause dans une procédure juridictionnelle, mais aussi lorsqu'elle est confrontée à l'administration. Un exemple auquel je vous suis sensible, c'est l'évolution de la procédure pénale, qui a connu depuis 5 ans une accélération décisive, notamment par la pression combinée du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation et très récemment de l'Union européenne. La garde à vue pour laquelle, des mesures sont encore à réaliser. Et ces mesures, nous les attendons peut-être par la transposition des directives européennes et notamment de la mise en place de la feuille de route de Mme Viviane Reding sur les droits fondamentaux. Nous savons que les deux premières directives ont déjà été transposées, celle sur l'interprétation et la traduction, et celle sur le droit à l'information dans les procédures pénales. La troisième directive vient d'être adoptée. Elle garantit le droit d'accès à un avocat pour les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale. Si Mme le garde des Sceaux avait été là, nous lui aurions dit qu'elle était attendue sur la transposition de ce texte qui, pour nous, est essentiel. Seul ce texte nous permettra d'arriver au standard que les avocats demandent depuis si longtemps. Sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et l'individualisation des peines, le président Burgu-Burru l'a dit en présence de la garde des Sceaux le 4 octobre, les avocats ont des choses sales à dire. Oui à la suppression des peines planchées, oui à la faible peine automatique en cas de récidive, oui à un code de l'exécution des peines, oui aux mesures fondées sur l'idée que l'exécution de la peine privative de liberté en matière correctionnelle et criminelle est conçue non seulement pour protéger la société et punir le coupable, mais aussi pour favoriser son amendement et préparer l'éventuelle réinsertion. En cela, le Conseil national des barreaux appuiera et soutiendra ce projet de loi. Il reste bien évidemment la contrainte pénale, les discussions viendront. Nous voulons et nous souhaitons qu'elles soient plus et en tout cas différentes qu'un simple sursis. Les avocats acteurs. Il nous paraît essentiel de dire que nous sommes des acteurs du droit. Mais là encore, nous ne sommes des acteurs que si l'on nous donne les moyens essentiels de l'être et de faire notre travail correctement. Et bien évidemment, comme ceux qui m'ont précédé à cette tribune, je ne peux pas passer sous silence les difficultés rencontrées sur l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est à bout de souffle. Et là encore, métaphore cinématographique. À bout de souffle, et c'est peut-être le seul constat, le seul point sur lequel désormais nous sommes d'accord avec les pouvoirs publics. La différence, avant le 5 mai 2012, c'est que finalement nous travaillons toujours à l'aide juridictionnelle dans la différence de la plupart de nos concitoyens qui ne savent pas forcément dans quelles conditions nous travaillons, mais désormais les pouvoirs publics ont le sentiment qu'effectivement ce système ne peut plus continuer. Mais la seule compassion des pouvoirs publics n'est pas suffisante. Les avocats attendent autre chose du garde des Sceaux, qu'elle compatisse sur notre sort. Alors, de nombreux barreaux sont en grève. Les avocats considèrent légitimement qu'ils doivent être justement rémunérés pour les dossiers qu'ils traitent dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Nous ne pouvons pas nous résoudre à entendre le fait qu'il n'y aurait pas de budget, alors même que depuis des années, le Conseil national des barreaux représentant la profession d'avocat a travaillé avec les services de la chancellerie, a mis en évidence tous les modes possibles de financement qui auraient permis d'assainir un système et de rémunérer correctement les avocats. Ces modes de financement envisagés ont été passés sous silence et il nous faut aujourd'hui recommencer inlassablement ce travail. En cela, je salue le travail de Myriam Picot, qui en sa qualité de présidente de la commission Accès au droit au Conseil national des barreaux, inlassablement reprend jour après jour son plaidoyer devant les services de la chancellerie. Les interlocuteurs changeant, on en remet toujours de nouveaux qui ne connaissent pas le dossier, à qui il faut tout réexpliquer. Mais nous n'arrêterons pas là, nous ne pouvons pas nous résoudre à travailler à perte ou à nous mettre en danger pour remplir une mission qui est un devoir de l'État. Alors l'année dernière, votre présidente à Caen, cher Pascal, vous aviez la chance d'avoir le garde des Sceaux et déjà vous lui faisiez part de votre inquiétude et vous mettiez en garde le nouveau gouvernement en expliquant que assez traditionnellement, les membres du syndicat des avocats de France avaient fait confiance à François Hollande et avaient voté massivement pour lui, parce qu'il avait expliqué, mais comme déjà un bon nombre de candidats, que la justice devait être une priorité. Cher Pascal, vous imploriez, vous disiez, ne nous décevez pas, c'est en début de mandat que se font les révolutions, disiez-vous. Pas de révolution, non seulement notre situation ne s'est pas améliorée, mais sans la vigilance de Myriam et d'autres, et de la commission Accès au droit, et bien par le biais de la démodulation, non seulement sa situation ne s'améliorait pas, mais elle serait devenue encore plus critique, puisque nous savons que sacrifiant le thème à 35 euros, c'était les avocats qui faisaient les frais de cette annonce. Alors aujourd'hui, parmi les solutions envisagées, la taxation sur le chiffre d'affaires des seuls cabinets d'avocats n'est pas envisageable. Il faut absolument convaincre nos confrères qu'il faut se tourner vers d'autres modes de financement, vers d'autres modes de fonctionnement. La taxation sur le chiffre d'affaires n'est pas une solution que le Conseil national des barreaux acceptera. D'ailleurs, le président Burgu-Buru, lors de l'Assemblée générale du 4 octobre, interpellant la garde des Sceaux, lui disait, mais finalement, demande-t-on aux médecins de financer les difficultés de l'hôpital public? Alors aujourd'hui, inlassablement, encore et toujours, nous continuerons à travailler sur ce dossier de l'aide juridictionnelle. Producteur de droit, ça finalement, ça devrait rapporter, parce que si on continue dans la traduction cinématographique, les figurants, c'est pas grand-chose, les acteurs, à part d'être de grosses vedettes, on peut avoir des jours difficiles, mais quand on est producteur, on devrait pouvoir y arriver et finalement mieux se défendre. Alors les avocats sont producteurs de droit, vous avez raison, et il n'y a pas à s'interroger sur ce point. Deux exemples précis et qui sont chers au Conseil national des barreaux. L'acte d'avocat, c'est un pur produit de la profession d'avocat. Et je vous encourage à vous servir de cet instrument, à le faire connaître à vos clients, à l'utiliser. C'est non seulement un outil de la profession, mais c'est aussi un marqueur fort pour notre profession et par rapport non seulement à nos clients, mais également aux professions, aux autres professions du droit. Mieux encore, à la procédure participative de loi du 22 décembre 2010. La procédure participative est née de l'esprit des avocats et du fait que souhaitant lutter contre la déjudiciarisation et au moment même, je vous le rappelle, de la commission Guéchard, où il était envisagé que nous perdions le contentieux du divorce, certains, comme d'autres l'avaient fait pour l'acte d'avocat, certains d'entre nous ont imaginé la procédure participative sur des modèles anglo-saxons, mais en la francisant, si je puis dire. Aujourd'hui, la procédure participative vous permet de régler amiablement les différends de vos clients en ayant une parfaite visibilité non seulement de l'honoraire mais du temps que vous allez consacrer à ce dossier. C'est un instrument de confort pour vos clients. Cela vous permet d'externaliser totalement la mise en état et finalement, entre confrères, de déterminer par le biais d'une convention comment vous allez résoudre ce litige, le nombre de séances que vous allez accorder à la résolution de ce conflit et quels sont les instruments que vous allez employer pour cela, intervention de tiers, communication de pièces, etc. C'est une procédure qui, à l'heure actuelle, est peu utilisée, comme si finalement les avocats étaient très peu sûrs d'eux et que lorsqu'ils fabriquent un produit, eh bien, ils ont un petit peu de réticence à utiliser ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Je vous invite à vous servir de la procédure participative. Je pense qu'elle peut être l'avenir à tous nos problèmes et qu'en tout cas, dans l'état où se trouve actuellement le système judiciaire, elle permettrait d'accélérer considérablement la résolution des différends. J'ajoute que pendant toute cette procédure, le délai de prescription est suspendu lorsqu'il y a des délais. Donc, véritablement, nous sommes producteurs de droit, nous savons construire des instruments et nous devons les utiliser. Alors, bien sûr, l'imagination ne doit pas s'arrêter là et il nous faudra, c'est impératif, il nous faudra, pour être producteur, être prospectif. Une occasion unique nous est donnée, c'est la réflexion qui est menée à l'heure actuelle par les services de la chancellerie sur la justice du XXIe siècle. Ces travaux sont considérables et il n'est pas anodin que la chancellerie s'interroge sur ce que doit être la justice du XXIe siècle, que les juges s'interrogent sur ce qu'est leur office et ce que sera leur office pour les siècles à venir. C'est une occasion unique pour la profession d'avocat d'être producteur de droit. C'est une occasion unique d'imaginer ce que sera notre justice. Osons l'imaginer, n'ayons pas de pudeur. Sachons que, véritablement, toutes les possibles sont ouvertes. Nous pouvons réaliser des choses, nous pouvons concourir à l'œuvre de justice et de manière peut-être différente de ce que nous l'avons fait depuis des siècles et qu'il est peut-être l'heure aujourd'hui de voir les choses différemment. Deux chiffres, 8 000 magistrats, 58 000 avocats. Et si la justice de demain n'était finalement qu'une affaire d'avocat? Ça n'est pas de la science-fiction, il suffit d'y réfléchir, il suffit de le voir. Je vous souhaite un excellent